L'extrait montre un contexte de reprise d'un exercice de lecture et on est au moment de l'exercice 2. Alors, ces exercices portent d'une manière générale sur les inférences et d'une manière générale, on peut dire que les inférences correspondent à ce qu'on appelle la faculté de pouvoir lire entre les lignes quand on essaye de l'expliquer aux enfants ou de comprendre ce qui n'est pas dit. Et d'une manière plus littéraire, on pourrait faire référence au blanc du texte d'Umberto Eco. C'est parfois volontairement l'intention de l'auteur pour créer un suspense ou tenir le lecteur en situation de vigilance. Voire même l'habituer à s'approprier le texte pour que sa lecture soit vraiment personnelle. Alors, dans ce petit extrait aussi très court, on peut voir que la mise à la tâche ou la mise en activité n'est pas du tout évidente, même si un premier exercice a été fait. On peut s'attendre d'abord à ce que les inférences mobilisées ne soient pas toutes les mêmes parce qu'effectivement, elles peuvent renvoyer à des choses qui ne sont pas dites mais qui sont d'ordre différent. Parfois, la connaissance qu'on a de la vie quotidienne ou de ses propres expériences peuvent nous permettre de reconstruire des scénarios qui vont permettre d'intuiter quand on dit « il pleut », ben oui, il faut préparer le parapluie ou quand on dit « prends ton parapluie, c'est qu'il va pleuvoir ». Ça peut être aussi lié à des connaissances plus encyclopédiques. C'est souvent le cas dans les textes documentaires. Il faut avoir un certain nombre d'éléments et de connaissances sur le savoir en jeu pour comprendre un certain nombre d'éléments. Ça peut être aussi le cas d'un genre littéraire particulier. On sait par exemple quand dans le genre policier, les descriptions des personnages sont toujours évasives et il faut être capable de se reconstruire un personnage prototypique dont on ne sait pas grand-chose pour comprendre qui va aller à la recherche d'indices pour résoudre l'énigme. Mais ça peut aussi être des inférences liées à des champs lexicaux. Ça peut être aussi des inférences liées à des contextes soit de localisation, soit de temporalité, soit d'organisation causale avec des relations de cause à conséquence. Qu'il faut être capable de pouvoir intuiter, ce qui rend ce travail sur les inférences très compliqué, parce que vous avez compris, il y en a différents genres. Et en plus, dans les activités comme celles qui sont proposées, elles sont guidées, mais rien ne dit que l'élève, même s'il a compris ce système de fonctionnement, il va être capable, de manière autonome, de les mettre en œuvre. Surtout que la plupart du temps, ces inférences sont rarement isolées, et elles fonctionnent de manière conjointe sans être du même registre. Donc, dans ce travail qui a déjà été commencé, on en est à l'exercice 2 et il est assez compliqué à l'élève interpellé d'arriver à se mettre en route. On va déjà commencer à lire la dernière phrase qui est en rouge, mais déjà, elle ne sait pas qu'il s'agit d'elle qui doit se mettre au travail. Puis une fois qu'elle sait qu'elle doit se mettre au travail, elle ne sait pas à quel texte il est fait référence, hein, au deuxième ou au troisième. Puis ensuite, l'enseignant lui précise à la fin du deuxième texte, en lui précisant la phrase qui est écrite en rouge, et Mage répond « une souris ». Elle essaye de déchiffrer une des réponses proposées qui est probablement une sorcière. Et on voit là que non seulement il y a une ambiguïté quant au lieu de travail à effectuer, mais aussi quant à la tâche elle-même, puisque là, Mage répond à la question alors qu'on lui demande de lire la question. Et il y a une certaine confusion entre la question et la solution. Alors, dans le deuxième temps, l'enseignant essaye de reprendre la consigne en référant à la couleur et au texte, et au lieu de dire deuxième texte, il va dire texte 2. Et puis il va dire d'abord qui commence par 2, mais effectivement les deux premières consignes commencent par 2, puis il va dire de quelle. Et on peut penser qu'il y a un adulte qui met un peu plus le pied à l'étrier à Medge en répétant de quelle. Et on assiste ensuite au déchiffrage du mot, puisqu'il s'agit de quel axe et soir. On va donc assister à une lecture déchiffrage découpée en 3 unités. Et puis elle va dire accessoire a-t-il. L'enseignant va reprendre ce mot, très bien, accessoire bravo. Il va valoriser, valider cette réponse. Et puis la consigne va se poursuivre, s'agit-il ? Et l'enseignant va reprendre le contexte de l'exercice en précisant bien qu'il s'agit de choisir un mot parmi les trois, faisant là preuve d'une assez grande expertise, puisqu'on sait qu'en CP, en CE1, encore un certain nombre d'élèves ne sont pas des lecteurs aguerris, et le fait de leur demander d'anticiper une des trois réponses parmi un choix possible permet de les projeter dans la tâche peut-être plus facilement. Il leur lit oralement les possibilités, une sorcière, la fameuse souris de Mage, un masque ou un sac, et il va leur relire le texte pour faciliter la compréhension de ce passage qu'ils ont déjà probablement commencé à déchiffrer, voire à lire seuls. Et il va être pris entre différentes tensions qui sont propres aux multiples sollicitations du métier, c'est-à-dire qu'à la fois, il va essayer de le lire de manière à ce qu'ils puissent suivre à leur rythme cette lecture, en essayant d'avoir une lecture par groupe de souffle qui permet de respecter la structure grammaticale du texte, mais à la fois de prendre en compte les obstacles qu'ils peuvent éventuellement rencontrer dans cette lecture avec des mots complexes, ce qui fait que parfois son interprétation de la lecture du texte ne va pas être stabilisée et on peut s'interroger sur cette aide à la lecture qu'il entend apporter sur des mots importants, ce qui fait qu'effectivement, ça peut-être faire décrocher certains élèves quant à la compréhension fine de ce texte. On va peut-être voir aussi que ces propositions de lecture, par exemple de dire « un » possible, permet de faciliter le déchiffrage de cette lecture en séparant le préfixe du mot qui est connu pour leur dire que cette lecture finalement d'un mot long n'est pas si complexe que ça, mais ça permet aussi de construire la dimension lexicale des termes et de leur construction sans pour autant faciliter l'interprétation dans leur contexte. Impossible, ça n'est pas un et possible. Et on peut aussi s'interroger sur la compréhension du terme « accessoire », puisque précédemment c'était « de quoi s'agit-il » et là on est sur une formulation qui dit « de quel accessoire s'agit-il ». Ce mot est déjà présent dans le texte. On sait qu'il est indispensable et puisque Jérémy a à la fois une cape, une épée et un chapeau, on est en mesure de construire un raisonnement, ce qui n'est pas tout à fait présent dans les consignes proposées, c'est-à-dire qu'il faut trouver des raisons pour lesquelles on choisirait peut-être un masque s'il s'agissait d'une tenue de mousquetaire, mais peut-être d'un sac s'il s'agissait d'une tenue de brigand. Donc ce qui serait très intéressant par la suite, effectivement, c'est de se servir de la dissonance peut-être des réponses proposées pour en venir à l'argumentation fine des raisons du choix des élèves. On peut penser que cette lecture est rendue complexe parce que à la fois le texte est présent sous les yeux des élèves et que cette lecture est nécessaire pour penser ce qui n'est pas écrit et que ce travail de construction d'un raisonnement interne, c'est celui qui va être attendu des élèves de manière autonome en voie intérieure, mais qu'il est très important qu'ils puissent se partager et qu'on puisse mettre des mots dessus pour qu'ensuite l'élève puisse s'approprier ce propre fonctionnement à son propre compte.